Je te remercie pour ce témoignage hein, qui nous apporte un peu de souffle de Béjaïa. Effectivement, bah, Béjaïa, ça tombe bien puisque c'est en Kabylie. Et je pense que tu pourrais témoigner que, effectivement, bah, c'est une caractéristique de ce mouvement, y compris en Kabylie, c'est pas fait sur des bases régionalistes. C'est pas du tout ça qui a été mis en avant. Hein. Donc c'est peut-être dans ta tête, mais en tout cas c'est pas dans la réalité, parce que nous on raisonne à partir de la réalité sociale, hein, pas à partir de ce qu'on présuppose, de ce que les gens ils ont dans la tête. Et comment ça s'est manifesté? Bah, par le fait que bah, les gens en Kabylie ont à la fois le drapeau berbère et le drapeau algérien, et ils y tiennent, hein, ils y tiennent à ça. Et oui, Gaït Salah, tu dis depuis le début, il a essayé de faire la division. C'est pas vrai. C'est pas depuis le début. C'est à partir de la fin du mois de juin. Hein. Au mois de mars, il l'a pas fait. Au mois d'avril non plus. Il a attendu que le mouvement décline un peu avant les vacances. Donc déjà là, faut être précis. Bon, ça c'est une première chose. On se contente pas du fait que toute la population soit mobilisée. Mais c'est une bonne chose que toute la population soit mobilisée. Dans toutes les grandes révolutions, on le regrette pas. Dans toutes les grandes révolutions, eh bien, toute la population se mobilise, toutes les classes sociales se mobilisent, à des degrés divers. Et encore plus dans les pays pauvres, hein, où la proximité entre la petite bourgeoisie, les travailleurs, les gens qui sont chômeurs, les étudiants, c'est... Voilà. Donc, ça a été une des forces du mouvement. Le problème, c'est de pas en rester là. Hein, c'est pas simplement l'unité du mouvement, c'est pas simplement toutes les classes de la société. Le problème qui se pose à ce mouvement, c'est quelle perspective il peut avoir. Ben oui, en tant que révolutionnaire prolétarien, on pense que c'est la classe ouvrière qui peut jouer un rôle. Mais le penser, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Et la réalité, c'est que oui, la classe ouvrière en Algérie, elle a été partie prenante. Elle a été partie prenante de cette mobilisation. Dans les entreprises, dans les manifestations du vendredi, où elle a été présente en masse et en force, mais en tant que citoyen, pas en tant que travailleur. On n'a pas vu des cortèges d'ouvriers dans les manifestations du vendredi. On a vu des manifestations ouvrières, de travailleurs, avec différentes corporations en semaine. Oui, ça a existé. Ça a existé au mois de mars et avril. Et d'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles Bouteflika a démissionné, puisqu'ils ont activé, parce que là, le mouvement en mars se généralisait avec la désobéissance civile. Ils ont voulu désamorcer la contestation. Alors, ça n'a pas été. Elle n'est pas apparue comme une force distincte. On le constate. On le constate, et en même temps, on le comprend. On le comprend parce que la classe ouvrière algérienne, elle est rentrée dans ce mouvement avec du retard. Du retard dans la conscience politique. Du retard dans l'organisation. Il n'y a pas de syndicat dans les entreprises privées. Dans les entreprises publiques, les syndicats, ils sont complètement corrompus. Les travailleurs doivent se battre hein, pour imposer des élections. S'ils veulent avoir des délégués élus qui soient leurs délégués, en qui ils ont confiance, il faut qu'ils se battent pour ça. C'est un combat. Ça veut dire être présent le jour des élections. Comment ça se passe hein, il y a des élections... Eh bien, au comité de participation, eh bien, le directeur, il dit, c'est lui qui décide qui c'est qui va aller voter. Et puis, au bout du compte, c'est la liste qui est élue, c'est la liste du patron. C'est la liste qui est d'accord pour collaborer avec le patron, puisque depuis le sommet du GTA jusqu'à la base de l'UGTA, eh bien oui, ils sont sélectionnés pour être fidèles au régime. L'UGTA a collectionné 4 millions de signatures de parrainage de Bouteflika. Comment ils ont fait? Ils sont allés voir les travailleurs en leur disant « Tu signes !» C'est pour ça qu'il y a eu une contestation contre Sidi Saïd. Les gens, ils l'avaient là, quand même. Donc, ces syndicats sont corrompus. Et même les syndicats autonomes qui existent dans les administrations, dans l'éducation, ben, c'est pas mieux. Ils se battent pour être reconnus par le pouvoir. Quand il y a eu une grève des enseignants, ils ont arrêté la grève des enseignants. Hein, les enseignants là-bas, ils sont très dégoûtés de cette attitude. Donc voilà, il y a un déficit d'organisation syndicale, un déficit d'organisation politique qui n'aide pas au fait que la classe ouvrière, elle s'organise de façon indépendante. Mais Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le faire, ça ne veut pas dire que des organisations ne peuvent pas naître, ça ne veut pas dire qu'elle peut se battre aussi pour avoir le droit syndical dans le public et dans le privé, le droit de choisir ses délégués. Elle a beaucoup de combats à mener, parce que le système, ce n'est pas simplement Bouteflika, Gaïd Salar, etc. Le système, il a plusieurs étages. Et les étages qu'elle côtoie, c'est dans les entreprises, c'est le directeur, c'est le responsable du syndicat, c'est le préfet, c'est tout ça. C'est tous ces gens-là qui sont liés les uns aux autres, qui ont profité pendant des années. Donc, elle a des combats à mener pour sa survie. Et là, eh ben, ils ont chassé Bouteflika. Et qui, aujourd'hui, s'adresse aux classes populaires parmi tous les partis ? J'ai cité un certain nombre d'initiatives de regroupements politiques qui veulent se présenter comme les porte-parole du mouvement populaire pour trouver une issue à la crise. D'ailleurs, j'en profite pour dire que trouver une issue à la crise, pour tous ces gens-là, ça veut dire arrêter le mouvement populaire. Il faut être clair. Ça veut dire arrêter le mouvement populaire. Qui explique au mouvement populaire qu'il faut qu'il s'organise, qu'il faut qu'il défende aux travailleurs, qu'il défende ses propres intérêts? Donc, la révolution permanente, tous ces beaux mots, ok, d'accord. Hein, on peut dire qu'on n'a pas prononcé ce mot-là. Mais le problème, c'est comment aujourd'hui, par rapport au niveau de conscience et d'organisation, d'où il est parti, parce que faut quand même, tout l'historique que j'ai fait, il faut que ça serve à quelque chose quand même. Hein ? Non, mais... La dictature, la répression, la décennie noire. Hein, la décennie noire, je ne l'ai pas dit, parce qu'on ne peut pas tout dire, j'ai dû couper des bouts, mais ça veut dire quand même des tas de militants qui ont été assassinés, qui ont dû quitter le pays. Hein, l'Algérie a été privée d'une partie de ses intellectuels, a été privée de plein de gens. Ça a été la terreur quand même, qui a pesé sur toute la société. Ça a été un couvercle. Alors ce couvercle, il a sauté un peu, il peut retomber à tout moment. Eh ben, tant que la vapeur est continue, eh ben, il y a des possibilités. Et nous, notre espoir, c'est que dans ce mouvement, eh bien, surgissent des militants. Oui, c'est ça notre espoir. Surgissent des militants qui s'organisent, qui organisent des travailleurs, qui essayent de transmettre tout cet héritage politique riche du mouvement ouvrier. Et en réalité, vous savez, la classe ouvrière algérienne, eh bien oui, elle est retombée en enfance par rapport à tout ce que le mouvement ouvrier a dans son capital politique. Ce n'est pas vrai que de la classe ouvrière algérienne. Malheureusement, c'est vrai dans beaucoup de pays. Mais ce n'est pas complètement zéro par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier, parce que ce capital politique, il est là, il existe. Il doit s'incarner dans des hommes et dans des femmes qui s'en emparent. Et là, on peut jouer un rôle. On peut jouer un rôle ici, nous, en maintenant ce drapeau. Parce que le problème, c'est pas le drapeau kabyle, c'est pas le drapeau algérien, le problème, c'est le drapeau des travailleurs qu'il faut défendre.